Le septième jour d'après l'Assomption, c'est vrai, dès qu'ils auraient pu dire, voilà, on va célébrer une neuvaine, quoi. Puis, voilà, 15 août, et puis voilà, et puis jusqu'au 24 août, et puis voilà, et puis on ferait Marie-Reine 24 août. Ben non, 22. C'est pas l'octave, comme ça, 9, non, c'est... C'est pas une neuvaine, je veux dire, c'est une octave. Et ce qui veut dire quelque part, c'est un peu comme Pâques, quoi. Pâques, la fête de Pâques, c'est 7 jours. Pendant 7 jours, c'est le dimanche de Pâques. Le lundi de Pâques, c'est le dimanche de Pâques. Le mercredi, jeudi, vendredi de Pâques, c'est le dimanche de Pâques. Ça dure 7 jours. C'est l'octave, quoi. C'est la même grâce. C'est le même visage qui se déploie comme ça. C'est l'octave de l'Assomption. On aurait très bien pu, par exemple, célébrer, vous voyez, depuis le 15 août, tous les jours, à la même messe de l'Assomption. Voilà, on aurait très bien pu faire ça. Gloria, on aurait fait Gloria en entier. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, pour glorifier, ça aurait été merveilleux. Ah, et Marie, alors vous voyez, en fait, beaucoup de choses, en fait, dans du 15 au 22 août, en fait. D'abord la dormition, le mystère de la dormition de Marie, le mystère de l'Assomption de Marie, le mystère de l'Ascension de Marie, le mystère de la... du couronnement de Marie comme reine immaculée du ciel et de la terre. Ça fait quand même 4 grands mystères qui réalisent en elle et en Dieu quelque chose de très différent à chaque fois. Il y a un abîme incroyable, vous savez, entre la dormition que fait beaucoup les orthodoxes et l'Assomption. Pourtant, ça se fait à peu près au même moment. Et ce n'est pas la même chose de dire que Marie est couronnée reine immaculée du ciel et de la terre, que de dire, voilà, elle rentre au ciel de la vision béatifique. C'est pas du tout la même chose. C'est pour ça qu'il faut être contemplatif un petit peu. Enfin, voilà, contemplatif, c'est regarder un petit peu le catéchisme, faire le catéchisme contemplatif du mystère de Marie. Enfin, pas du mystère, mais parce que si on l'aime, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quelqu'un qu'on ne voit pas. Quelqu'un qu'on ne sent pas. Et c'est pour ça que c'est important le catéchisme. Or, tout ça, ce sont des choses qu'on ne trouve pas dans la Bible. Donc je peux lire la Bible 200 fois, je ne verrai pas la différence entre le mystère de la dormition, le mystère de l'Ascension, de l'Assomption, et puis de la royauté, quoi, la royauté du couronnement, plus exactement, de Marie. Eh oui, et ça c'est quand même quelque chose de Si on se rendait seulement un peu compte de l'abîme incroyable, inouï, immensément grand entre ce qui se passe à la dormition quand elle rentre dans la lumière de gloire, de la vision béatifique, et puis le mystère de l'Assomption, qui pourtant est fêté le même jour, on s'arrêterait de penser que la doctrine de l'Église n'est pas nécessaire. La révélation, c'est d'abord la doctrine de l'Église. C'est d'abord la doctrine. C'est pas d'abord la Bible. La Bible est venue après la doctrine. Comme Jésus est venu après l'Immaculée Conception. L'Écriture, elle n'est venue qu'après. C'est parce qu'il y a une tradition, une révélation vivante. Elle a été portée par Marie, cette tradition vivante. Elle a été portée, vécue surabondamment. Elle a pu se formuler dans des mots après coup. Et ça a donné l'Écriture, ça a donné la Haggadah du Nouveau Testament, ça a donné... Mais c'est venu après. Mais si tu ne sais pas traduire, transmettre, si tu ne connais pas, si tu ne vis pas la surabondance lumineuse des mystères du Nouvel Évangile en Marie, comment peux-tu interpréter, comment peux-tu lire la Bible puisque tu la prends du mauvais côté et tu ne veux pas rentrer dans la doctrine. Rien que le mystère de Marie nous fait comprendre ça tout de suite, puisque si je n'ai pas la doctrine, comment est-ce que je peux savoir, comment est-ce que je peux voir, comment est-ce que je peux toucher? Comment est-ce que je peux entendre? Comment est-ce que je peux pénétrer? Comment est-ce que je peux contempler? Le mystère dogmatique, le mystère divin, je veux dire, le mystère infaillible, inépuisable de l'Assomption de Marie, de sa royauté, de sa couronnement, de son cri d'Apocalypse. Ah, et ça? D'ailleurs, en même temps, il faut dire une chose, c'est que ça ne s'est pas passé en même temps. La dormition, regardez, elle s'est passée où? Elle s'est passée à Éphèse. Et il y avait cet appareil de communion, il y avait presque tous les apôtres étaient là. Il y a beaucoup d'icônes, beaucoup de retables et tout ça qui montrent ça. Et ils étaient là et ils étaient endormis là. Il y avait juste l'apôtre Thomas qui n'était pas là, c'est tout. Elle s'est endormie, c'est ce qu'on appelle la dormition. Son âme, j'allais dire, s'est ramassée, comme elle était la mère de Dieu, son âme s'est ramassée, elle était recueillie en Dieu qui était l'engendré en elle de toute chose en Dieu et de toute chose. De la générosité de Dieu, elle s'est engloutie là. Elle a traversé le voile de sa propre source, dans le propre principe ancré de Dieu en elle. Elle est rentrée dans la vision béatifique, c'est un recueillement qui commande d'ailleurs le mystère de la quatrième demeure. Le recueillement, c'est quand on dépasse le voile, et c'est Dieu qui nous recueille du dedans de nous pour passer à l'intérieur de lui. Et de sorte qu'il n'y ait plus rien qu'une aspiration en lui, de l'aspiration ancrée de Dieu. Alors, cette dormition a fait qu'elle est rentrée avec son intellect, avec son intelligence sublime, qui était déjà conjointe à la lumière, elle-même source de la lumière ancrée de Dieu. Mais elle était conjointe, mais dans la nuit de la foi, et donc là, d'un seul coup, elle était absorbée. Et c'est la lumière de gloire, de la vision béatifique qui a emporté, on peut dire, son corps dans la vision béatifique. Mais de l'intérieur, sa chair, sa sensibilité, la nuit de la foi a été comme absorbée, métamorphosée en lumière de gloire. Cette lumière gloriée qui permet au Verbe de Dieu, au Fils de Dieu, à l'épouser en Dieu, d'être à l'intérieur de celui qui est l'époux, c'est-à-dire le Père, qui est Dieu lui-même, et de caresser de l'intérieur, comme ça, de manière sublime, glorieuse, et puis vivante, et puis contemplative, et puis voyante, surtout. Dieu voit Dieu, quand même, tandis qu'il l'épouse de l'intérieur, qu'il le caresse dans l'unité de lumière et d'amour. Et ce que Dieu voit, l'intelligence toute bénie, toute divinisée de Marie vient d'un seul coup s'éclater à l'intérieur de cette lumière de gloire pour voir ce que Dieu voit dans cette sponsalité de l'épouser vis-à-vis de l'époux. avant la création du monde. Elle est immédiatement emportée, quoi, dans la vision béatifique du ciel. Du ciel, bien plus loin que le ciel, évidemment. Ça, c'est la dormition, mais c'est pas encore l'assomption. Et l'assomption, c'est qu'à partir de là, il va y avoir un rebondissement prodigieux. C'est tellement intérieur, c'est tellement profond, c'est tellement substantiel, c'est tellement personnel, hein. L'entrée dans la gloire de la vision béatifique de Marie, avec tout ce qui anime de l'intérieur, l'absorption, inspiration quasi ancrée de son corps dans cette lumière de clair que... Elle est ressuscitée de l'intérieur, si je puis dire, mais il y a quand même la charité en elle. Hein. Et donc il y a encore le regard des apôtres, il y a encore le regard de l'ensemble de l'univers devant cette absorption qui fait le... Alors du coup, il y a un moment d'arrêt. Et ce moment d'arrêt fait le mystère de la dormition, quoi. Et puis après, il y a les apôtres, vous savez très bien, ont amené Marie dans le tombeau, qui était à peu près à 800 mètres de là, 900 mètres. Il fallait monter une pente, là, passer par un boyau. Ils l'ont déposé là. Et quand ils sont revenus, quelques heures après, elle n'y était plus. Alors ils sont sortis du tombeau, il y avait eu donc le mystère de l'Assomption, son corps avait été, son âme, sa chair, son sang, la matière de son corps avait eu le temps d'absorber tout ce qui l'aimait, tout ce qui était amour en elle, avait eu le temps de traverser, d'assimiler, de porter en elle, en son corps, toutes choses. Et de sorte que, à partir de là, un univers nouveau a été créé. C'est ce qui est marqué dans le livre de l'Apocalypse. Voici que je crée un univers nouveau. Alors, à partir d'elle, un univers nouveau a été créé. Et ça a été l'Assomption. Et donc, elle a disparu aux yeux de l'univers ancien. Et l'univers nouveau trouve son existence dans son Assomption. Et alors, les apôtres sortent du tombeau. Et ils voient un peu plus haut, là, à 555 mètres d'altitude, sur la crête, ils voient la Vierge, là-haut, oh, 500 mètres de là. Quand on va là-bas, on voit très bien la distance, et sur la crête, ils ont vu quand même un signe, et une apparition de la Vierge. La Vierge leur est apparue, mais pas tout près, puisqu'elle était là-haut. Et elle montait au ciel comme une ascension. C'est pas la même chose non plus encore, l'ascension de Marie. Comme pour Jésus, l'ascension de Jésus et la résurrection du Seigneur sont des choses qui sont pas tout à fait la même chose. Et après cette ascension toute glorieuse, qui est juste une apparition en fait, il faut bien le dire, elle est assise à la droite comme reine, c'est ça. Elle va être couronnée, ce couronnement de Marie comme reine immaculée du ciel et de la terre, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ce qui est tout à fait encore autre chose, bien sûr. Alors c'est quoi, hein? C'est quoi le couronnement de Marie? C'est quoi Marie, reine immaculée du ciel et de la terre? À votre avis, hein? C'est quoi si c'est pas le... La glorification de tout son corps, de son âme, de sa chair, de son esprit, comme dans la dormition, la lumière des... Si c'est pas la création d'un univers nouveau et toute la matière en elle, comme dans l'Assomption, si ce n'est pas le fait qu'elle soit introduite dans la fécondité incrée du Père avec son corps, et avec l'ensemble de l'univers, hein, indivisiblement lié à sa gloire personnelle, Si c'est pas ça, c'est parce qu'il y a une spontanéité, parce que dans cette ascension, elle est rentrée dans l'indivisibilité de la vie divine incréée de Dieu, dans le Verbe de Dieu, dans la deuxième personne. Une indivisible. On ne peut plus séparer le Verbe de Dieu, l'épouser, et puis la Mère de Dieu. Et de sorte que la Mère de Dieu, lorsqu'elle va dans l'au-delà de l'unité des trois, elle assimile entièrement la substance même de la divinité de la deuxième personne de la très sainte Trinité, jusque dans sa substance incréée, dans l'au-delà de la gloire, de sorte que cette maternité, lorsqu'elle se nourrit cela, est transformée en royauté. C'est une transformation en royauté. Comment vous expliquez ça? Quand Marie, c'est une femme. Vous voyez, Marie, c'est un tout petit, rien du tout. C'est l'Immaculée Conception au départ. Marie, c'est. Donc, c'est l'Immaculée Conception, déployée dans son accomplissement. Voilà pour la dormition. Marie, c'est une toute petite enfant. C'est une petite enfant qui est toute compassion, toute co-rédemptrice. Marie, c'est une épouse, c'est une vierge, je veux dire. C'est une virginité dans la chair, c'est une contemplation virginale toute pure, c'est une vierge. Et à ce titre, bien sûr, elle est toute entièrement engloutie dans sa moitié, c'est pour ça, virginalement donnée, quoi. Profondément donnée. C'est une femme, c'est une vierge. Mais cette femme, elle a tout en elle pour, dans sa disparition dans l'amour, donner fécondité à travers sa chair et à travers cet amour, donner fécondité et être maman, d'être une mère, d'être une source. D'être une source, d'être une mère, fécondité maternelle. Et là, cette foyer, donc vous voyez, il y a beaucoup. Et puis enfin, bien sûr, C'est une hypostase, c'est une sagesse accomplie. C'est une femme qui est une sagesse accomplie. Elle est indivisible par rapport au Bereshit de la création de la sagesse. C'est une réjouissance. C'est une sagesse. Vous voyez ce côté, un point de vue. La sagesse, c'est le côté un petit peu de la vieillesse. Bon, et bien, tous ces aspects-là sont en elle. Ça, c'est quand elle est sur la terre. Jusqu'à la dormition, tous ces cinq aspects de Marie sont complètement, complètement épanouis dans la lumière de gloire de sa dormition. Mais lorsqu'ils vont être glorifiés, lorsqu'elle va être prise par la résurrection, par la gloire de la résurrection, lorsqu'elle sera assumée et que la création d'un univers nouveau se réalise en sa dormition, et que ce n'est plus du tout Marie dans sa dormition, mais c'est Marie dans un univers totalement nouveau, une création nouvelle. Regardez la différence qu'il y a entre un bout de cendre et le soleil resplendissant, mais à supposer qu'il soit vivant et rempli d'amour spirituel. C'est la même différence qu'il y a entre la dormition et l'assomption. C'est un univers totalement nouveau, l'assomption. Donc ça, cette petite, sa chair, son sens. Bon, par exemple, elle est vierge, mais sa virginité se transforme en sponsalité. Elle est l'épouse. C'est pour ça que là, elle devient indivisiblement et corporellement. Trois en un, en trois, dans sa sponsalité. Elle est l'épouse, la virginité. Et il se trouve que sa sponsalité, elle est vierge. En Marie, la virginité, c'est elle qui est maternelle. C'est par sa virginité qu'elle engendre Jésus. Qu'elle engendre le Verbe de Dieu dans la chair. Elle engendre le Verbe de Dieu dans son regard éternel sur toutes choses. Elle est l'engendrante du regard éternel de Dieu en toutes choses, et même à l'intérieur de lui-même. C'est sa virginité qui est source de, qui est la même chose, qui fait sa maternité. Parce que nous, à cause du péché, la virginité, une fois que tu n'as plus ta virginité, tu as la maternité. Si tu as la maternité, c'est que tu as perdu la virginité. C'est ça. Tandis que Marie, c'est exactement le contraire. Plus elle est vierge, plus elle est mère. Plus elle est vierge, plus elle est mère. Plus elle est mère, moins elle perd sa virginité. Plus sa virginité se centuple, se surabonde, se multiplie, se recrée, enfin, se resplendit. Voilà. Et bien, au ciel, c'est pareil, dans la résurrection. Sa virginité, c'est-à-dire sa spontanéité, surabonde dans une fécondité inouïe. Et c'est son corps féminin, son corps féminin, son corps virginal et sponsal, qui devient une source dans l'unité d'une fécondité dans la chair, dans son humanité charnelle, dans son corps. C'est ça l'Assomption, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose qui fait que ça. Alors voilà, donc, lorsque c'est sa virginité qui se déploie dans le nouveau de l'Assomption, ça donne le mystère de l'Assomption. Lorsque c'est cette fécondité maternelle dans la chair qui se déploie, ça donne la royauté. Elle est couronnée. Le couronne Marie-Reine, c'est la fécondité maternelle jusque dans la matière vivante de toutes choses. Et même dans la matière pas encore formée du principe de toutes choses. Donc elle vient, elle devient la reine, elle devient la source de fécondité, elle devient. Elle engendre. C'est comme ça que d'ailleurs, par exemple, en particulier, elle engendre pour nous le corps spirituel venu d'en haut. Qui vient se conjoindre à notre corps primordial dans son immaculée conception, si vraiment on veut bien être transformé, abandonner notre moi, je. Alors à ce moment-là, oui, il y a quelque chose qui fait que, oui, on peut dans l'ouverture des temps, quand on est aux portes et aux frontières de la félicité incréée de la reine immaculée de l'univers, qui va de l'incréé au créé, c'est-à-dire de nous à Dieu, et du créé à la créé, c'est-à-dire de la perfection absolue de la jardine glorieuse, de l'accomplissement des temps, jusqu'à l'incréé éternel de sa royauté. Alors à ce moment-là, oui, il y a quelque chose qui fait que sa fécondité est royale. Elle est royale parce que c'est une. Elle engendre un monde nouveau de germes de résurrection dans tous les enfants de Dieu, dès cette terre, mais aussi après. Voilà la sagesse. Et ce n'est pas la même chose, vous voyez. C'est forcé. Si elle est vierge, c'est l'Assomption. Si elle est mère, elle est emportée, tout est transformé, c'est la royauté, elle est reine. C'est une fécondité éternelle. C'est une fécondité éternelle. C'est une fécondité éternelle dans la matière vivante des enfants de Dieu, mais aussi dans la matière vivante du Verbe éternel de Dieu, mais aussi dans la matière éternelle de tous les possibles, de tous les univers possibles, du Bereshit, du Verbe de Dieu, dans son union hypostatique primordiale. Vous voyez ça, ce petit catéchisme, ça, vous voyez. On connaît beaucoup de gens, je critique pas du tout, hein, qui disent, moi, depuis que je me suis, voilà, mis entre les mains de Dieu, de la Sainte Vierge et tout, voilà, j'ai beaucoup lu la Sainte Écriture, la Bible et tout, mais ils n'ont jamais lu, non, ce petit catéchisme de rien du tout sur Marie. Ils ne connaissent pas. 50 ans après, tu vois, toujours pas, non, moi je lis la Bible. Ah bon? Et la doctrine de l'Église? Ah bon, non. Oh, je lis des messages, mais donnés par qui? Donnés par des gens qui n'ont jamais lu la doctrine infaillible de l'Église. Ah bon? Ah bah comme ça, on est drôlement bien arrangé là, avec ça. Avec ça. Parce que j'ai des messages, tu vois. C'est vrai parce que ouais, je connais quand même quelqu'un comme ça, qui s'est converti, puis 9 mois après, il commençait à avoir des messages, tu vois. Il ne savait pas ce que c'était, quoi, la différence entre l'assomption et la dormition, ce qui est quand même incroyable. C'est inouï, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas envie d'aimer Marie, puisque ça m'intéresse même pas de contempler son mystère tel qu'elle est. Et je ne peux pas la connaître autrement que par l'union transformante et la doctrine infaillible de l'Église. Les docteurs de l'Église. Ah, j'ai pas le temps. Ah bon, t'as pas le temps. Bon, très bien, si t'as pas le temps, reste à l'extérieur. Et il y en a un qui était resté à l'extérieur, c'est saint Thomas. Il est arrivé en retard. Il arrive toujours en retard, saint Thomas. Et là, il est arrivé en retard. Et il est arrivé. Moi, bon, c'est quand même grâce à lui que du coup, les apôtres sont remontés vite au tombeau. Ils sont remontés vite au tombeau, là-bas. Ils sont rentrés. Et il n'y avait pas de... Vous voyez, il n'y avait même pas de sueur, là. Et oui, puisqu'elle était revêtue. Et c'est là qu'ils sortent, et là-haut... Je suis monté là-haut avec mon frère. Avec mon frère jumeau. Puisque saint Thomas c'était un jumeau, surmontait avec mon frère jumeau là-haut, là, à 555 mètres d'altitude. Et là, c'est un doula, c'est de là qu'il était monté comme ça au ciel, dans une apparition. Mais comme ce n'était qu'une apparition, eh ben on voit là, ici, à cet endroit-là, sur 200-300 mètres de distance, quoi, on voit qu'il y a des cailloux. Petits cailloux comme ça, petits rochers, des petits cailloux, comme s'il y avait une blanc, plus blanc que la neige, plus blanc que la laine vivante, c'est plus blanc, très 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 blanc. Et c'est là. Et pourtant, c'est pas un endroit où il y a de ce genre de. C'est plutôt des rochers, vous savez, un peu sales, dans ce coin-là. Avec des petites paillettes, quoi. Mais là, à cet endroit-là, de partout, comme si c'était qu'une apparition. C'est quelque chose, quand même. Vous savez, une chose aussi, tiens, pour notre culture générale, il y a des croyants qui disent, mais il y a l'église de la Dormition à Jérusalem, donc Marie, c'est à Jérusalem qu'elle a connu son... Et donc le tombeau de Marie, si je puis dire, qui est devenu vide, c'est forcément à Jérusalem. Alors, on sait d'après les... Si on fait comme ça, évidemment, on peut continuer toujours à... Alors, en fait, il faut savoir quand même quels sont les textes des docteurs de l'Église. Mais non, on sait très bien que la Vierge, bien sûr, elle était avec saint Jean, elle était là au concile, premier concile de Jérusalem. Il y avait Yohanan, Ben Zebeda était là, bien sûr, lui aussi. Même une fois, il était là, saint Paul est arrivé. Et ça, on le voit dans les actes des apôtres, mais... Et alors, du coup, elle a fait le chemin de croix, et c'est un des pères de l'Église qui explique ça. Et donc, bien sûr, elle a fait le chemin de croix avec... On a pensé qu'elle était morte, donc on l'a déposée. Et puis elle s'est relevée, puis elle est repartie avec Jean. Et donc on a vénéré l'endroit où elle était morte. Mais elle avait vécu le chemin de croix, la passion, elle avait revécu sur les lieux. Mais d'une manière, j'allais dire, en surabondance apostolique, après la Pentecôte et puis après les conciles. Puis elle est repartie, c'est tout. Mais elle a connu sa dormition à Éphèse. Et à Éphèse, c'était dans la petite maison de Myriama, là-bas, dans la petite colline. Mais aujourd'hui, personne ne sait où est le tombeau. Quand vous allez là-bas, Éphèse, cherchez, vous verrez, personne ne vous dira où se trouve le tombeau. Le tombeau, il est un peu plus haut, un petit peu plus haut, à mi-chemin par rapport à la crête, qui est à 555 mètres d'altitude. Personne ne sait où est le tombeau de l'Assomption. Pourtant, il existe, il est bien là. Personne ne s'est jamais intéressé de savoir où est le tombeau. Sainte Hélène, elle s'est quand même intéressée de savoir où était le tombeau du Christ. Et depuis, le feu sort de la pierre tombale de la résurrection de Jésus. Le samedi saint, le samedi saint. Pas le dimanche, le samedi saint, le jour de Marie. Le jour de la transverbération glorieuse de Marie au jour. C'est là, avant la résurrection, ce feu. Et alors, et le tombeau de Marie, aujourd'hui encore, personne ne sait où il est, alors que c'est si facile, qu'il faudrait pas beaucoup plus que 2 jours de prospection pour le trouver. Que depuis 2000 ans, personne, et vous connaissez, vous savez ça? Vous avez jamais entendu parler de ça? Elle a eu un tombeau quand même, elle l'a déposé dans un tombeau. Et combien d'heures après sa dormition, ça je sais, c'est ce qu'on ne sait pas. C'est ce qu'on ne sait pas. Ça, l'enseignement de l'Église ne le dit pas, que c'est un autre moment, très bien. Mais que c'est, voilà, est-ce que c'est le jour d'après, est-ce que c'est 5 heures après, enfin, tu vois, bon, on ne sait pas. C'est peut-être le même jour, parce que ça doit être quelque chose d'assez semblable avec la visitation de Thomas, qui vient une deuxième, Jésus vient une deuxième fois pour Thomas. Donc ça doit être quelque chose d'analogue. Donc ça va pas dépasser un jour. Ça va pas dépasser un jour, sûrement pas. Mais après tout, pourquoi pas? C'était peut-être le matin à la dormition et le soir à l'Assomption. Nous n'en savons rien de ça, de toute façon on n'en sait rien, mais on peut très bien, oui, avec la, mais voilà, mais il y a une Anne-Catherine Emmerich explique, sainte Anne-Catherine Emmerich explique que effectivement elle a été emportée puis par les apôtres et puis que on l'a amenée dans l'endroit où elle faisait son chemin de croix tout le temps, là, avec sa jambe, mais son chemin de croix, et qu'elle avait été déposée à un endroit où, qui correspondait à la, alors, au 10e station du chemin de croix, je crois, que Marie faisait à Éphèse, sur la colline. Pourquoi? Parce que là, il y avait une grotte, on pouvait y accéder par le dessus, ou on pouvait y accéder aussi par un boyau, quoi, qui lui correspondait à la 3e station du chemin de croix, un petit peu en bas de la colline. Voilà, bon, peu importe, donc on voit. Il y a eu une stigmatisée qui était belge. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle, qui s'appelait Rosalie Put. Hein, vous avez entendu parler de cette stigmatisée-là? Une magnifique figure, un peu comme Louisa Picaretta. Magnifique figure. Et C'est un peu grâce à elle, d'ailleurs, que les pères rédemptoristes, qui étaient ces pères spirituels, ont organisé les recherches là-bas à Éphèse pour découvrir la maison de Marie à Éphèse, là où il y a eu la dormition. Parce que Rosalie, était emportée comme ça par chaque... Au moins une fois par semaine, là-bas, elle fait. Et avec Marie, elle refaisait avec Marie le chemin de croix que Marie faisait tout le temps. Donc elle connaissait par cœur la moindre pierre, Rosalie. Elle savait exactement où était la première station, la deuxième station, la troisième, la quatrième, la cinquième. Et comme Anne-Catherine Emmerich, donc on a fait un croisement entre les enseignements extrêmement précis que donnait Anne-Catherine Emmerich, et on a pu trouver tout de suite la maison de Éphèse, là où elle a vécu avec Saint Jean, qui a été cachée finalement très 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 longtemps quelque part, parce que puisqu'on voit même Saint Paul quand il vient à Éphèse, il sait pas où c'est. Même Saint Paul. Donc il vivait une vie très, très cachée, très humble, très, très effacée. Même la communauté primitive d'Éphèse, donc pourtant, après, Saint Jean est devenu l'apôtre, est devenu l'évêque de cette communauté-là, après. Et donc, on a découvert cette maison, et effectivement, elle a exactement, mais c'est vraiment extraordinaire, elle a vraiment le... C'est vraiment cette maison, quoi. Et je passe sur les preuves archéologiques, tout ça, parce que c'est pas la peine. Ça, c'est un truc scientifique qui m'intéresse pas. Mais une fois que je sais qu'elles existent, ça me suffit. Voilà. Et je dis, voilà. Ils ont dit, mais où se trouve le tombeau? Voilà. Première chose, ils vont dire, les pères rédemptoristes, on dit, ça doit être très facile, puisque vous faisiez le chemin de croix. Ben, il suffit que vous nous disiez où est le tombeau, et on y va, on creuse, on le trouve, 2 mètres terminés. Voilà. Et alors Rosalie leur a répondu. c'est pas vieux, hein, Rosalie. C'était à la fin du 19e, quoi. Hein, c'était à l'époque, c'était début du 20e siècle, quoi. On dit, mais. Elle a répondu non, le tombeau de Marie, pour l'Assomption, vous ne le trouverez pas. Il restera caché. On ne le trouvera que pour l'ouverture du temps. C'est beau d'ailleurs symboliquement aussi, voilà, on ne peut trouver le lieu du tombeau de Marie que pour l'ouverture des temps. Et il dit, mais pourtant, mais dites-nous, faites-nous un petit schéma, etc., pour le chemin de croix, et puis ça va. Alors, non, après, on va trop parler de moi, non. Et puis le ciel ne le veut pas, alors bon. À la stigmatisation d'après, sur son avant-bras, parce qu'elle avait un bras assez large, c'est marqué en stigmatisation le chemin de croix qu'elle faisait à Éphèse avec Marie. Avec les stations. Donc il y avait un, comment dire, un... Donc là, ça n'est pas d'elle. Et donc les pères ont vu ce chemin de croix qui était marqué. Donc ils ont recopié, quoi. Enfin, c'est pas très compliqué. Et on a comme ça le tracé exact du chemin de croix à partir de la maison de la dormition, station, troisième station, là où il y a le canal, tout ça. Et je dis, ben là, c'est bon, on va trouver, quoi. Toc, 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 toc. On va trouver, mais seulement, d'accord, il y avait le truc, mais il n'y avait pas l'échelle, c'est-à-dire que, est-ce que ça veut dire 1 centimètre ou ça veut dire 3 centimètres? Ah. Et donc, il fallait qu'ils fouillent toute la montagne pas commode, parce que c'est la Turquie, tu vois. Bon. Mais ça fait rien, bon. Donc ils ont quand même été essayés, ils n'ont rien trouvé du tout. Et ils ont quand même trouvé un endroit, et c'est quand on y va là-bas, on vous amène, à condition d'être très prudent, tout ça, secret, tout ça, parce que on vous amène à un endroit où il y a une espèce de rocher avec beaucoup de paillettes, de lumière, tout ça. On dit c'est là, on dit ça certainement là. Ça correspond à peu près à la 11e station. Puis en fait, c'est pas là. En fait, c'est pas là. C'est pas à cet endroit-là.
Marie doit rester cachée jusqu'à
la fin. Alors la Rosalie, vous savez ce qu'elle a dit au père rédemptoriste, vous ne pourrez pas savoir où est-ce que c'est. Vous ne pourrez pas. C'est réservé pour ceux qui doivent vivre l'ouverture des temps. Et elle a même dit c'est réservé à deux frères qui sont immaculés, qui sont prêtres et immaculés. Qui sont prêtres et immaculés. Les prêtres qui sont là pour l'ouverture des temps et qui sont immaculés. Alors ils ont dit, ah bon, ben, c'est pas nous, quoi. Voilà. Et moi, du coup, quand je reviens de Belgique, je dis à mon frère, c'est mon jumeau, je dis, c'est nous. Alors Bruno, il me dit, mais attends, arrête, que tu racontes, ça va pas, non tu... Moi, je suis pas prêtre. Je dis, si, ça pouvait être qu'après le Concile Vatican II, parce que le Concile Vatican II, il dit, il y a deux prêtres, c'est le prêtre ministère et le prêtre royal. Le sacerdoce royal des fidèles, c'est le sacerdoce. Donc toi, tu es prêtre du sacerdoce royal, moi, je suis prêtre aussi du sacerdoce ministériel. Donc ça fait deux prêtres, pour ça, ton vol d'Assomption ne pouvait pas être ouvert avant, découvert avant qu'il y ait la révélation par la Sainte Église des deux sacerdoces dans l'Église. Bon, il faut que ce soit deux frères, très bien. Mais écoute, arrête tes bêtises, me dit mon frère, c'est idiot, arrête de dire ça. Comme si on était immaculé et parfait. On n'est pas immaculé et parfait. Mais je dis, mais tu es bête ou quoi? Bien sûr que si, puisque il suffit, c'était l'année sainte, il suffit qu'on aille là-bas, c'était en l'an 2000, il suffit qu'on aille là-bas, on passe par la porte sainte de la maison de Myriama, or le pape a dit que tous ceux qui passent cette porte sainte, ils ont de l'indulgence plénière, à l'instant où on passe la porte sainte, ça y est, on est immaculé parfait. Donc on y va, on est immaculé parfait, et on va trouver. Alors, on dit oui, mais enfin, bon, ma femme ne sera pas d'accord. Alors on décide d'y aller quand même pour notre 50e anniversaire. Et c'est en même temps l'anniversaire de le dogme de l'Assomption de Marie. Donc on était trois à fêter notre anniversaire ce jour-là. C'était en décembre. De l'an 2000, c'était le 50e anniversaire pour Marie et pour nous deux. Et voilà, et c'est notre maman qui nous a payé comme cadeau d'anniversaire le voyage là-bas. Et pour la première fois de sa vie, mon frère a eu le droit de quitter sa femme. Sinon, il n'a pas le droit de quitter sa femme. Mais je ne sais pas pourquoi, sa femme, elle dit non, je ne veux pas fêter l'anniversaire chez moi. Elle dit bah, très bien, bah, on va le fêter tous les deux tranquilles là-bas. Et elle a rien dit, elle était tellement surprise. Et donc on a pu le faire, nous sommes allés là-bas. Et là-bas, c'est presque tout est bouclé par l'armée, c'est des gens d'une grégarité épouvantable. Ils sont prêts à tirer sur le premier qui bouge, etc., dans la forêt. Enfin, c'est très dense, c'est les Turcs, quoi, bon. C'est comme ça. Et donc on y va, et on va quand même voir les militaires, on dit, voilà, c'est notre 50e anniversaire, on était jumeaux, on dit ça comme ça, avec des... Ils parce qu'on parle pas la même langue, donc mais on rigole, etc. Alors dis-nous, on va se promener dans la forêt là. Bon, ils disent bon, ça va. Ils nous ont laissé partir dans la forêt. Et je vois à ce moment-là, enfin nous voyons une carte d'état-major qui avait été faite juste 2 ans avant. Ils n'avaient jamais fait la carte d'état-major. Et donc on regarde la carte d'état-major qui venait d'être faite récemment. Et on regarde, et je vois, je regarde, ah bah tiens, et oui, il y a la maison là. Je vois les, un petit peu les trucs. On voit sur la carte d'état-major, on voit la crête là-haut, et c'est là que je vois 555 mètres d'altitude. Sur la crête, 555. Oh, 555 mètres. Il faut aller là. Il faut aller là. Comme ça, on avait du coup l'échelle. On avait le plan. Et cette fois-ci, on avait l'échelle. Alors, avec mon frère, eh ben, on s'est fait un petit peu. On a été, on a regardé, on a trouvé. On a vu. Et puis, on a vu où était la 10e station. On a vu que les gens, les franciscains, se trompaient complètement en la mettant à peu près à 300 ou 400 mètres, un peu plus à droite. Et en fait, c'était un endroit, comme mon frère a fait de la géologie, c'est son métier, il a fait les mines de Paris, c'est très bien, exactement, toc, 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 dépression, pop, pop, là, et en dessous, il y a un trou, un bar, c'est tout, c'est très clair. Là, voilà. Et là, effectivement, au point exact, c'est là, dans ce sens, donc, on a vu que c'était là. Et comme ça, Rosalie, putz, t'es pas trompée. C'était réservé à 2 frères. Des prêtres qui étaient, c'est quand même marrant comme histoire ça. Alors vite on a été voir l'évêque qui était Monseigneur Bernardini à Éphèse, à Izmir, et puis on lui a laissé le plan, il a dit surtout je le garde parce que on peut pas le dire, parce que si ça se sait, ils sont capables les Turcs de mettre les bulldozers et tout raser quoi. Donc, on dit rien. Mais on sait maintenant, c'est bien. Tout ça pour dire la différence qu'il y a entre la maison de la Dormition et le tombeau de la résurrection, de l'Assomption et l'Ascension, qui est là-bas, beaucoup plus haut. Ça fait la moitié quand même. C'est bizarre, hein, une vie humaine. Hein. Alors, et nous sommes rentrés ensuite, très contents. Ça s'est passé, ça ne pouvait pas se passer de manière aussi plus simple. Hein. C'était vraiment magnifique. C'était trop, trop, trop marrant, quoi. Trop drôle. Voilà, et donc, là, quelque part, le catéchisme, c'est important. Parce que, vous voyez, si vous ne connaissez pas la doctrine, qu'il y a une différence inouïe, gigantesque, quasi infinie entre la Dormition et l'Assomption, alors vous comprenez pas où est le mystère, comment réunir le sacerdoce des rois et le sacerdoce des enfants. C'est vrai, les deux doivent se réunir, le sacerdoce des serviteurs, des instruments, les sacerdoces des rois. Le sacerdoce instrumental, c'est le sacerdoce de Saint-Joseph et de Jean, et le sacerdoce royal, c'est Marie-Reine. C'est la royauté. Et il faut unir les deux, et il faut voir comment, quel est le chemin spirituel dans l'union transformante, la mise en place du corps spirituel de l'Église tout entière, qui va faire l'unité des deux. Comment faire l'unité des deux? Comment cette grâce peut-elle donnée à l'Église si on ne fait pas l'unité entre les orthodoxes et les catholiques? Puisque les orthodoxes disent c'est la Dormition et les catholiques disent c'est l'Assomption. Et si on ne fait pas l'unité entre les orthodoxes et les catholiques, est-ce qu'on va pouvoir pénétrer réellement, visiblement, contemplative, universelle, dans une fécondité qui vient du ciel à la terre et de la terre au ciel, l'unité, ce pont, cette arche, cette alliance, ce cercle, cette indivisibilité, si je puis dire, et en même temps cette immense distance entre la dormition et l'assomption. Oui, vous avez proclamé le dogme de l'assomption sans nous. Nous, c'est la dormition. Et la dormition, c'est une assomption intérieure, c'est tout. Qu'est-ce que vous me racontez d'une assomption comme ça, éclatante, qui éclate de l'intérieur vers l'extérieur? Vous voyez, donc ils sont l'orthodoxe, la dormition, ils tiennent au mystère de la dormition. La mère est ressuscitée avec son corps, bien sûr, mais c'est une espèce d'implosion intérieure, une disparition en Dieu, à l'intérieur de la lumière de bain, de sa chair qui est là, mais la création d'un univers totalement nouveau, une création totalement nouvelle. Au-delà de l'exercice et de l'anastase, c'est quelque chose qui relève donc de l'église du pape Pie XII. Et elle a été proclamée seulement en 1950. Et nous nous sommes nés à ce moment-là. Ah oui, c'est ça. Alors, regardez, Marie est vierge, c'est une femme toute virginale, et elle est mère, voilà, sur la terre. Et du coup, au ciel, ben, cette femme, cette petite vierge toute virginale, toute dégoulinante de virginité, et ben voilà, c'est l'Assomption. Et Marie, cette maternité, cette maternité toute dégoulinante de fécondité dans la chair et le sang pour l'Église tout entière, pour Jésus d'abord. Ben, au ciel de sa transformation, c'est Marie-Reine. Elle est encore féconde, d'une manière, dans l'univers nouveau, dans l'au-delà, si je puis dire, dans l'en-deçà, dans la substance, dans l'aspiration de la substance divine, qui se réalise dans le satsa de la lumière de gloire de sa vision béatifique où elle est emportée avec son corps. Alors, il y a vraiment une sponsalité avec le Saint-Esprit. Alors, du coup, ça se déploie en sponsalité avec le paraclet. Et cette sponsalité a une fécondité, c'est sa royauté. Elle est reine. Elle est reine. Elle est reine. Et cette responsabilité que le Saint-Esprit fait quoi? Mais une mère sur la terre. Mais elle conçoit. Et aussi, elle reçoit. Et aussi, elle nidifie. Et puis, elle nourrit. Et même à la naissance, elle fait naître. Elle donne de son lait. Elle nourrit. Elle fait grandir. Elle contemple. Elle engendre une contemplation mutuelle. Elle fait grandir dans la lumière. Elle forme. Elle engendre aussi la grâce. Voilà les sept fonctions de la maternité sur la terre. Mais au ciel, et c'est pour ça qu'il y a sept grandes fécondités de la royauté immaculée de Marie. Sept grandes fécondités, toutes différente, puisque c'est un univers nouveau de fécondité dans la chair glorifiée. Elle est reine, vous voyez, elle est reine, elle est reine, elle est reine, c'est une maternité, regardez. C'est facile à contempler finalement, une fois que vous avez compris ça, la doctrine de l'Église, vous rentrez dedans, vous suppliez le soir le bon Dieu Saint-Esprit de vous faire rentrer dans l'univers intérieur de Marie, et de vous le faire voir de vos propres yeux, qu'on puisse le toucher, le sentir, le voir, le découvrir, cet univers nouveau de la royauté de Marie. Ah oui, parce que découvrir l'endroit où se trouve le tombeau, ça, on s'en fiche, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de voir, c'est d'aimer la Sainte Vierge, c'est d'être uni à elle, c'est de rentrer en elle, dans son cœur couronné. Et du coup, on voit bien dans l'Apocalypse couronnée d'étoiles, c'est-à-dire que sa fécondité va jusqu'à rendre fécond, une fécondité inouïe, tout le ciel angélique. et la manière différente de sa fécondité dans le dans les séraphins, dans les chérubins, dans les attributs divins, dans les espaces de vastitude victimale, dans le cause d'amour sans fin et sans limite, des dominations et des vertus et glorieuses, tout ça. À chaque fois, elle emporte, elle aspire, elle fait rentrer en spiration dans sa fécondité maternelle le monde des chérubins, des anges de la face de Dieu. Ils sont engendrés dans un univers nouveau. Elle est mère et reine des anges, donc elle engendre en eux un univers séraphique nouveau, à la fois d'aspiration et de procession, et aussi d'émanation. Et pareil pour la lumière, voilà pour les chérubins, et pareil pour les attributs divins, voilà pour les trônes. Et voilà que du coup, il va y avoir le royaume du miracle des trois éléments. Voilà pour les dominations glorieuses. Et tout ça, cette fécondité de Marie qui vient rendre possible le monde nouveau, l'ouverture des temps, dès cette terre, parce que par la foi, nous contemplons le mystère, la Marie règne telle qu'il est. Alors si par la foi, nous en vivons et nous laissons transformer dans l'oraison, dans la cinquième et sixième demeure, alors oui, Marie règne peut engendrer jusque dans le temps de la foi, de quoi voir s'épanouir l'ouverture des temps. Et donc il y a un lien direct, vous voyez. Et on comprend pourquoi le tombeau de l'Assomption n'a pas été découvert tant qu'on n'était pas à l'heure de l'ouverture des temps. On comprend très bien. C'est pas donné à l'Église tant que l'Église n'est pas une entre la Dormition et l'Assomption, entre les orthodoxes et les catholiques. On a encore une nouvelle raison pourquoi il faut pour rentrer dans l'unité, dans l'un de la mémoria, de la présence réelle, vivifiante, personnelle de l'Immaculée Conception dans sa royauté, jusque dans la paternité ouverte de Dieu, il faut bien qu'il y ait l'unité. Tant qu'il n'y a pas l'unité apostolique de l'Église, tant qu'il n'y a pas Saint Thomas, tant qu'il n'y a pas le jumeau qui est là, dernier moment, Saint Thomas, c'est un jumeau. Et il faut bien cette unité, parce que tant que l'Église n'est pas la Pâque de Marie dans l'unité, dans l'un, on n'a pas accès à l'aspect corporel, si je puis dire, hein, du Saint des Saints, de cette assomption à la royauté de Marie. Et l'Église n'a pas cette fécondité, elle l'aura dans le temps de la foi, dès lors qu'elle peut entrer dans cette cause méritoire, et laquelle ne peut se produire que si on est dans l'unité. Entre les deux grands mystères, quoi. Il faut que, c'est ça l'unité au fond, hein, quelque part apostolique. C'est une autre raison qui rend absolument nécessaire cette communion eucharistique de la Pâque de Marie. Curieux, hein, qu'il fallait attendre 1950 ans pour que l'Église proclame l'Assomption quand même. C'est pas normal. Il y a bien une raison. Et vous voyez, vous ne trouverez pas ça en lisant la Bible, en lisant les commentaires des protestants, etc. Non. Non, non, il faut la doctrine de l'Église. L'Église a une doctrine sur Marie. L'Église a une doctrine infaillible et immaculée sur Marie. On sait très très bien ce qui se passe en elle. On sait très très bien ce qu'elle est dans son assomption, ce qu'elle est dans sa permission, ce qu'elle est dans sa fécondité, l'univers nouveau de sa fécondité qui fait qu'elle est couronnée reine. Voilà, et ça c'est important, hein. C'est là que vous voyez que quelqu'un comme Maximilien Saint, Maximilien Marie Kolb, c'est très important. Alors bien sûr, il faudra que le pape le proclame docteur de l'Église, docteur de l'Immaculée Conception. Mais avant qu'il soit docteur, il est déjà un saint, je veux dire, il a quand même la doctrine de l'Immaculée Conception, elle existe, je veux dire, elle est là. Lui-même, il a puisé dans la doctrine infaillible de l'Église pour le donner, pour nous le donner. Donc Marie, reine immaculée du ciel et de la terre. C'est là qu'on voit que si tu ne fais pas oraison, si tu ne mets pas cette demi-heure minimum, allez, deux fois 20 minutes, enfin, c'est bien, parce que comme ça il y aura la dormition, il y aura l'assomption. C'est vrai. Si on ne fait pas oraison pour donner la permission, par politesse, quoi, un minimum de politesse exquise pour lui, que cette délicatesse, que Saint-Esprit puisse agir, ouvrir les portes du secret de Marie, du sceau de Marie, du cinquième sceau, quoi. Qu'il y ait la possibilité, quoi. De venir chercher une demeure en nous pour l'inscrire, pour le faire voir, pour nous transformer, nous mettre en affinité avec chacun, chacune des chambres secrètes de ce mystère de Marie, pour qu'on l'aime, quoi. Pour qu'on la voit. Du coup, comme on la voit, on la contemple. Comme on la contemple, on peut l'aimer. On peut l'entendre, on peut s'unir d'amour avec elle. On comprend pourquoi Luther a dit, voilà, il ne faut pas prendre la doctrine de l'Église, il faut prendre que la Bible, c'est tout. Et on comprend pourquoi les gens qui disent ça, du coup, n'aiment pas Marie, si c'est la mère de Jésus, et puis ne nous cassez pas les pieds, pas plus. D'ailleurs, elle a eu d'autres enfants, dites pas qu'elle est toujours vierge. On connaît son frère, on connaît ses sœurs qui sont vives là parmi nous. On connaît même les prénoms des frères et sœurs. C'est marqué dans la Bible, hein, alors. Bref, ils lisent la Bible de traviole. Et voilà, et donc si tu n'aimes pas la doctrine, forcément tu n'aimes pas Marie. Si tu n'aimes pas l'Immaculée Conception, tu n'aimes pas la doctrine non plus.
Fort, il parle pas.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Lui, il parle de l'Immaculée Conception, il parle de la médiatrice et il parle de la sagesse. Et donc, les trois. Et puis, Maximilien Kolb, il va parler. Il parle des deux autres. L'Immaculée Conception dans la lumière de gloire, l'Immaculée Conception dans sa fécondité ancrée. Dans sa fécondité quasi ancrée, hein. Mais bon, bien sûr, il y a la doctrine, de toute façon, vous voyez, moi, tel que je vous le dis là, c'est la table des matières, si vous voulez, hein, vous voyez. Mais c'est... Après, c'est avec le Saint-Esprit, avec ça, ça suffit, c'est que chacun rentre dans chacune de ses artères merveilleuses, rentre dedans, s'y écoute délicieusement, s'y perd, et laisse le Saint-Esprit faire le reste. Et à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui nous montre... qui se passe dans ces fécondités extraordinaires, angéliques, tout ça. Regardez, quand on traduit en italien l'Apocalypse, est-ce qu'on ne traduit pas les choses qui sont révélées sur le mystère de la création nouvelle de Marie après sa dormition et dans son assomption? Hein? Dans l'Apocalypse, est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'il n'y a pas dedans, là, des révélations très très précises? très précise sur le mystère de Marie dans sa royauté, dans ce royaume qui s'ouvre et qui vient de la fin, qui vient jusqu'à nous dans le baiser du véritable amour, dans un chemin de croix descendant. Est-ce que c'est pas ça? Demandez. Hein? Même en italien, on le voit. Même traduit en italien, on le voit. C'est le but, d'ailleurs, de cette explication de l'Église. C'est pour que même en italien, on puisse le voir. Alors, on va célébrer cette messe. C'est quand même une messe importante pour nous. Et en même temps, on la célèbre pour ceux qui peuvent l'entendre de manière beaucoup plus limpide que nous. Ils sont 700 milliards, là, d'enfants, et puisque c'est le corps de Marie qui est spiré dans l'aspiration à créer de Dieu pour être royal, pour être féconde de cette fécondité-là, eh bien, on peut donc faire célébrer la messe pour que eux, au moins, dans leur corps disponible à cette mystère de l'ouverture des temps et du corps spirituel venu d'en haut, le plonger dans le sang de Jésus-Marie, le sang eucharistique, le sang précieux, dans le calice, cette cuve extraordinaire de la transverbération, de la transglorification, qui soient consacrés à ça et que leur corps disponible se dispose surnaturellement et glorieusement à l'ouverture des temps à partir de là. Et c'est pour ça que c'est bien de célébrer cette 22e messe pour rejoindre Marie-Reine. Je trouve ça magnifique de faire ça. C'est vraiment l'ouverture de leur tombeau qui devient vide. Il n'y a plus que le mystère de l'ouverture des temps et du cinquième sceau de la royauté, de la présence corporelle palpitante, décollinante, des noces de l'agneau, de la sportalité de Dieu. Et c'est dès cette terre, parce qu'eux, ils sont dans la foi comme nous, ils sont dans l'espérance comme nous, ils sont dans le temps comme nous. Regardez comme pour nous c'est difficile de nous mettre au rythme de l'instant éternel, de la royauté de Marie. Mais pour eux, c'est plus facile, peut-être. Enfin, ils sont plus simples que nous, ils sont plus... beaucoup plus humbles que nous. Ils ne se regardent plus du tout, il y a longtemps qu'ils ont compris ça. Ils ne regardent que par aspiration celui qui vient, ce que l'Église peut leur donner. Ils savent qu'ils n'ont encore rien de ce qu'ils doivent recevoir. Ils ne vivent pas sur leurs acquis. Et du coup, ils n'ont pas la moindre tentation de se replier sur leurs acquis. Tandis que nous, on dit quand même 100, 135 kilos, ça fait quand même un certain poids. C'est un certain acquis. J'ai droit au respect, quand même. Il faut quand même qu'on me regarde, qu'on me considère, qu'on m'entende, quand même. Il faut quand même que j'ai quelque chose à apporter, quand même. J'ai apporté quelque chose. Vraiment, tu as apporté quelque chose. Tu as apporté de la boue, de la cendre et du vomi. Retourne chez tes ovnis. Et traduit l'Apocalypse en langage incréé de l'Immaculée Conception. Après, on pourra trouver quelqu'un pour le traduire en arabe. en se lavant. Et en grec. Allez, on va faire la messe.